Bonjour à toutes et à tous, c'est Jamy. Bienvenue dans Par ici le futur, le podcast qui interroge l'avenir en Occitanie. Comment se nourrir demain? Quels moyens de transport seront utilisés par nos enfants et nos petits-enfants? Comment produirons-nous l'énergie nécessaire à notre quotidien? Ce sont les questions que nous posons à celles et ceux qui travaillent dès aujourd'hui au monde de demain. Ensemble, partons explorer ce territoire engagé dans des solutions d'avenir.
Par ici, le futur.
Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez net, c'est que les Français se rendent compte de plus en plus des bouleversements liés au réchauffement climatique. Donc il y a cette conscience environnementale qui les pousse à essayer de voyager de façon différente. Il y a une offre qui augmente au fil des années.
Aujourd'hui, je vous propose comme nouvelle étape de notre odyssée, le transport. En France, les transports représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre. Ces gaz responsables du réchauffement climatique. C'est énorme. Pire, malgré l'amélioration de la performance environnementale des véhicules, les émissions de gaz à effet de serre issues des transports ont augmenté de 9% depuis 1990. Ce chiffre s'explique par l'augmentation de la circulation. Dans le domaine des transports, comme tant d'autres, il y a urgence à agir, à réduire les émissions de CO2. Alors demain, comment ferons-nous pour nous déplacer? Dans ce nouvel épisode de Par ici le futur, nous allons une nouvelle fois sillonner la région Occitanie, le long de voies ferrées, dans des trains qui fonctionnent déjà sur batterie et bientôt des trains à hydrogène. Des voyages aux tarifs imbattables, avec des billets à 1 euro, certains sont même gratuits. Dans cet épisode, nous ferons le plein d'un carburant alternatif, le biométhane. Et nous marquerons un arrêt au futur Technocampus, un centre de recherche chargé de concevoir des moteurs à hydrogène vert pour les avions de demain. Bon voyage. L'Occitanie souhaite développer massivement l'usage du train dans la région d'ici à 2032. L'ambition est de porter à 100 000 le nombre de voyageurs quotidiens contre 80 000 à l'heure actuelle. Pourquoi le train? Parce qu'il émet moins de CO2, bien moins que la route, responsable de la quasi-totalité des émissions du secteur des transports. Mais comment amener de nouveaux usagers à préférer le train au quotidien? Pour répondre à cette question, nous avons joint Laurent Chaplon, professeur à l'Université Montpellier 3, spécialiste des transports et des mobilités.
Alors, ce que les usagers des transports collectifs et du train en particulier attendent, c'est une offre de qualité. Une offre de qualité, c'est à la fois de la fréquence, des trains qui soient ponctuels, qui soit rapide et dont les horaires de circulation correspondent aux besoins. Donc, ce que les régions ont bien compris, c'est qu'il faut aujourd'hui améliorer la qualité de l'offre, faire bénéficier aussi les usagers d'une tarification avantageuse et sans doute contraindre davantage l'automobile pour redonner un avantage relatif au train par rapport à l'utilisation de la voiture. Donc, il y a un intérêt aujourd'hui à avoir un service de qualité et c'est par la qualité du service que l'on attirera davantage de gens dans les trains.
Tout cela, la région Occitanie l'a bien compris. Une convention signée en 2023 avec la SNCF devrait permettre d'augmenter de 24% le nombre de trains, soit 110 trains supplémentaires par jour d'ici 2032, avec des engagements de ponctualité et de qualité de service. Des engagements qui ne sont pas des paroles en l'air. En cas de non-respect, la SNCF subira des pénalités qui pourraient aller jusqu'à 9 millions d'euros. Pour améliorer le confort des voyageurs, la région prévoit d'investir 540 millions d'euros d'ici 2032. Un montant qui servira à entretenir, à moderniser et à renouveler le matériel roulant. Les abords des gares se modernisent aussi. L'accès des bus est facilité, celui des vélos également, grâce aux pistes cyclables, à des zones de stockage. L'accès des personnes à mobilité réduite s'améliore, celui des parents avec poussette également. Bref, la gare devient plus confortable pour tout le monde. Les opérateurs ont pris conscience qu'on ne s'y rendait plus uniquement en voiture, on ne parle plus de parking, mais de pôles d'échanges multimodaux. Environ 70 pôles d'échanges multimodaux sont en phase d'études ou de travaux dans toute l'Occitanie. Ils s'ajouteront à ceux de Prades, de Lunel, de Sète ou de Castres, pour n'en citer que quelques-uns. Du côté des prix, l'Occitanie propose depuis plusieurs années déjà des tarifs bas et attractifs, comme des billets à 1 euro pour des voyages dans toute la région. Et même des billets gratuits sur le réseau de trains et de bus régionaux pour les 12-26 ans avec le pass plus égale zéro. Un pass qui permet aux jeunes de bénéficier de trajets à moins 50% lors des 10 premiers voyages et à partir du 11e, de voyager gratuitement. Et ça a l'air de fonctionner puisque l'Occitanie est la première région de France en évolution de trafic. 30% de voyageurs en plus depuis 2018. Et ce n'est pas tout. 6 fois plus de jeunes prennent le train aujourd'hui qu'en 2019. Pourtant, changer ses habitudes n'est pas une chose simple. Au niveau national, la part modale de la voiture, c'est-à-dire la part de la voiture dans le total des déplacements, n'a quasiment pas bougé entre 2008 et 2019. Comment expliquer ce phénomène ? La réponse de Laurent Chaplon.
C'est vrai que la part modale de l'automobile n'a pas bougé dans les mobilités locales. En France, on est à 63%. Ça veut dire qu'il est extrêmement difficile de changer les pratiques. On ne pourra pas mettre en place des politiques homogènes partout. Il faut comprendre les spécificités des territoires et on ne peut contraindre l'automobiliste que s'il y a des alternatives efficaces qui lui sont proposées. Et en dehors des métropoles, dans les zones périurbaines et rurales, il y a une très forte dépendance à l'automobile. Et mis à part ceux qui habitent proche d'un axe ferroviaire, il y a quand même une offre de transport collectif qui n'est pas forcément à la hauteur. Je pense notamment au réseau d'autocars qui pourrait être beaucoup plus performant. Donc on voit bien que l'automobile va encore faire partie de nos mobilités dans les prochaines années, mais on peut réfléchir à un meilleur usage de l'automobile. Aujourd'hui, la plupart des gens ont un véhicule de 5 places qui est calibré donc pour transporter 5 personnes et qui finalement est utilisé par une seule personne. Et donc l'idée, c'est d'amener les automobilistes à covoiturer davantage.
Le covoiturage, on n'a pas fini d'en entendre parler. Il est principalement utilisé pour les longs trajets. On a toutes et tous entendu parler de Blablacar, mais aujourd'hui, de nouvelles applis se développent pour covoiturer sur de petites distances. Le trajet domicile-travail, par exemple, sans avoir besoin de réserver longtemps à l'avance. Je l'ai testé dans une autre région et je peux vous promettre que ça fonctionne très bien. Laurent Chaplon évoquait aussi le besoin d'un réseau d'autocars plus performant. Une idée qui fait son chemin à Montpellier avec l'arrivée de bus électriques à haut niveau de service. Le bus tram, c'est son nom, promet un niveau de service proche du tramway en termes de fréquence, de ponctualité ou encore de confort des stations et un service élargi de 5h du matin à minuit. Rendez-vous en 2025. Autre idée, le RER, Réseau Express Régional, les Franciliens le connaissent bien. L'État souhaite développer des services express régionaux métropolitains dans 10 grandes agglomérations du pays. Toulouse est officiellement candidate, appuyée par la région Occitanie et le département de la Haute-Garonne. Avec un objectif d'un train toutes les 10 minutes en heure de pointe, l'usage de la voiture pourrait être fortement réduit dans la métropole toulousaine. Pour parler du train d'aujourd'hui et de demain, j'ai le plaisir d'accueillir le youtubeur Benjamin Martini. Bonjour Benjamin.
Salut Jamy.
Plus connu, et vous aurez très certainement reconnu sa voix, sous le pseudo de Tolt. Donc, bonjour Tolt.
Salut Jamy. Alors moi, il n'y a pas de nom de code, c'est Jamy tout le temps.
C'est Jamy tout le temps, voilà. Jamy toujours, voilà. Alors, tu publies des vidéos de voyage depuis 2016 sur la chaîne Tolt en voyage et tu interviens de temps en temps sur la chaîne Épicurieux. Plus récemment, tu as lancé Ourail, un média dédié au voyage à bas carbone et notamment au voyage en train. Et ça marche, ou plutôt ça roule. Qu'est-ce qui, à ton avis, explique cet engouement ?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez net, c'est que les Français se rendent compte de plus en plus des bouleversements liés au réchauffement climatique. Donc il y a cette conscience environnementale qui les pousse à essayer de voyager de façon différente. Donc je pense qu'il y a, on va dire, une partie des Français qui vont se reporter sur le train dès qu'ils en ont la possibilité. Et puis après, je pense quand même qu'il y a une offre, évidemment, qui augmente au fil des années, en tout cas sur l'offre TGV. Donc voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut le voir de façon très concrète. La SNCF n'a jamais vendu autant de billets de train en 2023. Donc voilà, c'est des signes assez concrets.
Et puis peut-être aussi qu'on s'aperçoit que l'on redécouvre le confort du train. En train, plus de problèmes d'embouteillage, plus de problèmes pour se garer. Et puis, un confort aussi qui permet pendant le trajet de lire, de travailler parfois, ou de se reposer. On a d'ailleurs fait une vidéo ensemble où tu voyages à bord de train dans plusieurs régions de France. Tu es devenu ce que l'on appelle un ferrovipate, un passionné de train. Qu'est-ce qui te plaît finalement dans ce moyen de transport ?
Bah, comme tu l'as dit, le confort déjà, parce que moi je trouve que le train c'est vraiment quelque chose de super confortable. Il n'y a pas cette charge mentale de devoir conduire, de devoir être attentif sur la route comme par exemple quand on prend la voiture. Il n'y a pas le fait de devoir passer des portiques de sécurité, de devoir faire attention à la taille de son bagage comme quand on prend l'avion. Et puis évidemment la dimension écologique joue aussi. Et après il y a aussi tout l'aspect, le fait d'être en fait, ancré sur Terre et de voir les paysages défiler, ce qui n'est pas forcément possible sur d'autres modes de transport, notamment l'avion, où, en fait, dès qu'on atteint une certaine altitude, on est au-dessus des nuages et ça peut être beau, hein, mais on va dire que c'est un peu moins varié. Et puis aussi, même, je trouve que les sièges, le fait d'être à sa place avec un peu plus de place, de pouvoir se lever quand on veut, de pouvoir aller au bar, etc., ça, c'est quand même des éléments qui rendent le train vraiment confortable.
Voilà, et puis en parlant de confort, le fait aussi que les gares se trouvent en centre-ville la plupart du temps et qu'on n'est pas obligé de prendre un moyen de transport, un taxi pour rejoindre un aéroport avec des portiques de sécurité à passer, arriver une heure voire une heure et demie avant le décollage. Voilà, on arrive en gare 10 minutes avant de prendre son train, on est tout de suite dedans et puis quand on arrive à destination, on est également en centre-ville. On va parler d'un train que vous aimez bien, le train de nuit. Il a failli disparaître et puis finalement, il fait progressivement sa réapparition. Ceux qui te suivent sur ta chaîne t'ont vu à bord du Paris-Vienne notamment et plus récemment, en décembre 2023, dans le Paris-Berlin. Alors, le retour du Paris-Berlin, en quoi est-ce un événement ?
Alors, c'est un train qui avait disparu depuis plusieurs années. Je crois qu'il y avait une ligne, on va dire, jusqu'en 2013. Après, il y a eu une ligne qui était un peu moins fréquente, qui était opérée par une compagnie russe. Mais grosso modo, ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait plus de liaison en train de nuit entre Paris et Berlin. Donc c'est évidemment une super nouvelle parce que le train de nuit, à mon sens et pour beaucoup de personnes, c'est une vraie alternative à l'avion parce que comme on voyage de nuit, eh ben, on n'a pas l'impression de perdre son temps. Ça permet d'arriver tôt le matin si jamais on a besoin d'être à rendez-vous tôt le matin. Donc ça, c'est super pratique. Et puis, je trouve que ça a quelque chose aussi d'assez romantique. Le fait de s'endormir en France pour se réveiller à Berlin, c'est quand même quelque chose d'assez magique. Donc c'est une super nouvelle, évidemment. Après, voilà, moi, à titre personnel, j'en attends plus. J'espère qu'il va y avoir plein d'autres ouvertures de trains de nuit à travers l'Europe.
Oui, il faut l'espérer. Moi-même, j'ai testé le Paris-Vienne, voilà, et j'ai aussi pu découvrir des trains que toi aussi tu as découvert, les trains de nuit autrichiens. On espère avoir des trains de cette qualité le plus vite possible sur le réseau français. Alors, on parlait de transport romantique, entre guillemets, c'est l'adjectif que tu as utilisé. L'un de tes trajets préférés se fait justement à bord d'un train de nuit, c'est le Paris-La Tour de Carole dans les Pyrénées-Orientales, en Occitanie. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce trajet ?
Bah, c'est pareil en fait, c'est vraiment ce côté un peu magique, c'est-à-dire que tu t'endors en Île-de-France et tu te réveilles le lendemain matin dans les Pyrénées, donc un changement de décor total, un changement d'ambiance total, qui est passé un peu comme un clin d'œil, enfin comme un claquement de doigts plutôt. Et voilà, donc ça, c'est un côté vraiment magique. Et aussi, ce qui est très bien sur cette ligne, c'est qu'il y a un arrêt à la station qui s'appelle Axe-les-Thermes. Et en fait, Axe-les-Thermes, t'es à 10 minutes des remontées mécaniques qui t'amènent à la station Axe 3 Domaine. Donc, pour les férus de ski, par exemple, qui habitent à Paris ou qui habitent à Toulouse, ça peut être une très bonne option parce que, en fait, ça leur permet d'aller skier sans prendre la voiture. Et sachant qu'aujourd'hui, on sait que l'empreinte carbone des stations de ski, plus de la moitié est liée au déplacement des skieurs, enfin en tout cas des voyageurs. Donc en fait, le fait de ne pas aller en voiture à la montagne, c'est un super bon moyen de décarboner l'empreinte carbone justement des stations de ski.
Paris-Axe-les-Thermes, on prend le train le soir, on s'endort bercé par le roulement du train et on se réveille au petit matin, au pied des pistes. Ça donne très envie. Je vais sûrement réserver des billets. Alors, je vous le disais au début de ce podcast, le train est le mode de transport qui émet le moins de CO2. Mais il en émet quand même car tous les trains ne sont pas électriques. Électrifier une ligne coûte cher entre 1 million d'euros et 3 millions par kilomètre. Sur certains parcours peu fréquentés, sur lesquels circulent peu de trains, installer des lignes électriques aurait un coût trop élevé, difficile à rentabiliser. C'est pourquoi de nombreux trains régionaux fonctionnent encore au diesel en France. Au niveau national, la moitié des trains régionaux, en gros, est électrique. Un quart roule au diesel et le dernier quart est bimode. Tolt, c'est quoi la différence entre train monomode et train bimode ?
Train bimode, alors j'imagine que ça doit être des trains hybrides qui ont des batteries qui permettent donc d'alimenter grâce à de l'électricité. Mais si besoin, peut-être qu'ils peuvent aussi tourner au diesel ?
Alors, tu devances ce podcast. En fait, il existe aujourd'hui des trains monomodes, des trains bimodes. Le train monomode, eh bien, c'est un train qui fonctionne avec un seul type d'énergie, un train diesel ou un train électrique. Et puis, un train bimode, eh bien, c'est un train qui fonctionne à la fois au diesel et à l'électrique. Pour réduire les émissions de CO2 de leurs trains, plusieurs régions envisagent de remplacer des trains bimodes actuels par des trains d'un nouveau genre. C'est le cas en Occitanie où l'on commence à croiser des trains hybrides dont Tolt nous a déjà dit quelques mots. Yannick Leguet, ingénieur et directeur technico-commercial chez Alstom, entreprise française spécialisée dans le secteur des transports, nous explique en quoi cela consiste.
Ça consiste à quoi ? À enlever la moitié des moteurs diesel, y mettre des batteries, ce qui permet de récupérer l'énergie cinétique en freinage. Et cette énergie, on va la stocker dans des batteries et cette énergie va servir à la prochaine accélération. Et donc, ce faisant, on va améliorer le bilan énergétique de ce train et donc réduire sa consommation de diesel et donc réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Et après 3 ans de développement, puis encore une année d'homologation, ce train hybride, électrique, thermique et batterie, circule désormais avec des passagers en région Occitanie au départ de Toulouse. Et ce n'est pas tout. 2 autres technologies sont sur les rails, si j'ose dire. Tout d'abord, le TER à batterie. Dans ce train, plus aucun moteur diesel, mais des batteries au lithium.
Et donc là, les trains vont enlever tout ce qui va être moteur diesel, réservoir de combustible, refroidissement, etc., etc. On va y mettre des batteries avec les systèmes de chargeurs et autres qui vont avec. Et on va pouvoir exploiter des lignes, mais des lignes de distance relativement courte entre 2 points de rechargement.
Des trains qui fonctionneront comme nos voitures électriques, sauf qu'ils ne rechargeront pas sur une prise, comme on le fait avec les voitures électriques, mais en roulant sur certaines portions équipées de lignes électriques et grâce au pantographe, vous le savez, situé sur le toit du train, qui permet de capter l'électricité. Ce train à batterie, développé par Alstom, avec 5 régions françaises, dont l'Occitanie, est encore en test. Je vous ai parlé du train hybride dans lequel on remplace la moitié des moteurs diesel par des batteries. Du train à batterie dans lequel on remplace tous les moteurs diesel par des batteries. Venons-en maintenant au train à hydrogène. Et c'est toujours Yannick Leguet qui nous en parle.
Alors, le train à hydrogène, c'est le 3e composant de la gamme de trains décarbonés qu'on développe en ce moment. Ce train à hydrogène va embarquer avec lui, déjà de l'hydrogène, bien évidemment, sous forme de gaz. D'accord ? Donc on a des bonbonnes de gaz qui vont être installées sur le toit du train et qui va être utilisé par un composant qu'on appelle une pile à combustible à hydrogène, qui est un composant qui va mélanger l'hydrogène et l'oxygène de l'air pour en faire, donc H2 et l'oxygène, ça va faire de l'eau. Hein. Et en ce faisant, va créer de l'électricité. Voilà, donc c'est cette réaction très simple qui va nous permettre de récupérer de l'électricité pour alimenter les moteurs.
Et oui, on a toutes et tous fait l'expérience de l'électrolyse de l'eau. Quand on était au collège ou au lycée, un courant électrique permet de séparer l'oxygène et l'hydrogène de l'eau. Et bien là, c'est l'inverse. La combinaison des deux permet de produire de l'électricité. Un train monomode développé par Alstom, fonctionnant à 100% à l'hydrogène, circule déjà en Allemagne depuis 2018. En France, les trains à hydrogène seront bimodes afin de pouvoir utiliser les lignes électrifiées lorsqu'il y en a. Les premiers trains de ce type sont attendus en 2025 sur la ligne Toulouse-Montrégeau-Luchon. Ils fonctionneront avec de l'hydrogène vert entre Luchon et Montrégeau et en mode électrique sur les voies électrifiées entre Montrégeau et Toulouse. On parle d'hydrogène vert lorsque cet hydrogène est produit dans des unités alimentées elles-mêmes en électricité renouvelable, à partir d'éoliennes par exemple. L'Occitanie souhaite, grâce à cette technologie, réduire de 40% les émissions de CO2 liées à ces trains régionaux en 10 ans. Notre voyage dans les transports de demain n'est pas terminé. Nous allons maintenant aborder un sujet qui fâche certains, l'avion. Le transport aérien, intérieur et international, imputé à la France, représente 4,4% du total des émissions françaises de gaz à effet de serre. Ça paraît peu. Mais si l'on rapporte ces émissions au nombre de passagers, c'est beaucoup. Avec 285 grammes de CO2 par passager et par kilomètre, l'avion est le mode de transport qui émet le plus de gaz à effet de serre. Laurent Chaplon, notre spécialiste des transports et des mobilités, nous parle de ces enjeux.
Effectivement, aujourd'hui, il y a une remise en cause de la place de l'aérien dans nos mobilités. Je sais que l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol réfléchit à une réduction de son trafic, notamment pour certaines catégories d'avions, je pense aux jets privés. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on se trouve à un carrefour où il y a toujours une demande très forte de trajets en avion et une nécessité de décarboner très rapidement ce mode de transport ou de contraindre une partie de son usage pour justement réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que l'enjeu du changement climatique, il est maintenant. Or, la décarbonation du transport aérien, elle n'est pas pour aujourd'hui, elle est peut-être au mieux à l'horizon 2050. Et donc, il faut arbitrer entre une demande très forte pour ce mode-là et une limitation des usages pour des questions climatiques. Et c'est un sujet extrêmement sensible.
En France, certains vols intérieurs de courte durée sont désormais interdits lorsqu'il existe une alternative en train de moins de 2h30. Il faut décarboner très rapidement l'aviation, nous dit Laurent Chaplon. Le secteur aérien mondial s'est engagé à supprimer ses émissions de CO2 d'ici 2050. Airbus envisage même de faire voler de premiers avions décarbonés dès 2035. Parmi les solutions envisagées, il y a l'avion à hydrogène. Christophe Turpin est chercheur au CNRS. Il travaille sur les technologies à hydrogène depuis 25 ans. À cette époque, ça n'intéressait pas grand monde.
Il y a 25 ans, il y avait fort peu d'activités déjà autour des systèmes à hydrogène. On avait aussi du mal à avoir des activités autour des énergies renouvelables. On était très très peu et au laboratoire à la place, sur une centaine de personnes, on était deux à essayer de lancer cette thématique.
Le laboratoire La Place est l'un des grands laboratoires du CNRS. Il est situé à Toulouse. Aujourd'hui, les choses ont bien changé puisqu'un nouveau centre dédié à l'hydrogène verra bientôt le jour, le Technocampus Hydrogène Occitanie, un centre de recherche, d'essais, d'innovation technologique et d'enseignement qui sera étroitement impliqué aux côtés d'Airbus dans le développement d'un avion décarboné. Christophe Turpin est le porteur scientifique du projet. Il nous parle de la mission de ce Technocampus.
C'est un centre d'essais qui vise à pouvoir faire sur le même lieu à la fois des développements industriels et à la fois des développements universitaires, tout en étant dans un lieu piloté par la force publique. L'idée est de pouvoir faire des tests à très forte puissance, notamment au mégawatt. Et le mégawatt, c'est quelque chose qui commence à être significatif en termes de puissance pour les applications type aéronautique de mobilité lourde.
un projet de très grande envergure, ce que même les porteurs du projet, comme Christophe Turpin, découvrent petit à petit.
On commence à se comparer, avoir des retours d'expérience de beaucoup d'industriels aussi qui ont pignon sur l'ensemble du monde. Et on se rend compte effectivement que c'est un centre qui n'a pas d'équivalent à ce jour.
Un centre hors norme pour des objectifs immenses. Airbus envisage de remplacer le kérosène par de l'hydrogène dans des moteurs à combustion d'ici 2035. Un objectif qui rencontre encore de nombreux obstacles techniques. Alors avant d'y parvenir, d'autres solutions sont à l'étude.
Dans le transitoire, qui peut durer 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal par rapport à ça, il est envisagé donc de développer ce qu'on appelle des carburants de synthèse. Et ces carburants de synthèse, les plus intéressants à terme, ne sont pas les biocarburants, parce que c'est très bien les biocarburants, mais on met alors en compétition une agriculture vivrière et une agriculture énergétique. Donc l'idée, c'est de basculer vers des carburants de synthèse fabriqués à partir de l'hydrogène. On voit que l'hydrogène pourrait effectivement être une solution, que ça soit effectivement directement utilisé ou indirectement via un combustible de synthèse.
Le Technocampus sera opérationnel en 2025, financé à hauteur de 35 millions d'euros par la région Occitanie. Avec la découverte d'importants gisements d'hydrogène blanc sur notre territoire, de l'hydrogène déjà constitué à la différence de l'hydrogène vert obtenu par électrolyse ou de l'hydrogène noir obtenu à partir d'énergie fossile, l'hydrogène est plus que jamais une source d'énergie du futur. Mais ce n'est pas le seul carburant d'avenir. Dans le Tarn, l'Hérault et la Haute-Garonne, Trifil, un établissement public de collecte de valorisation des déchets, fait rouler ses véhicules au biométhane, un gaz produit à partir des biodéchets. On appelle biodéchets les déchets organiques qui peuvent entrer en fermentation. Ce sont par exemple les déchets de cuisine, comme les épluchures ou les restes alimentaires, ou encore les feuilles mortes du jardin. Et il y en a beaucoup. Les déchets alimentaires représentent environ un tiers des poubelles ménagères des Français, soit 83 kg par habitant et par an. Cela représente 5,5 millions de tonnes au total en France. Et très récemment encore, ces déchets étaient incinérés ou enfouis. Mais depuis le 1er janvier 2024, toutes les collectivités françaises sont tenues de mettre à disposition des citoyens une solution de tri des déchets organiques pour qu'ils puissent être valorisés en compost ou en biogaz. Revenons à Trifil, dans le Tarn, une entreprise pionnière. Dès 2018, elle a mené des expérimentations de collecte des biodéchets. Les habitants des communes participant à l'opération ont été invités à trier leurs déchets de cuisine dans des sacs séparés. Ces déchets ont ensuite pu être valorisés en compost ou en biogaz. Et demain, dans un nouveau projet d'unité multifilière de tri, de valorisation et de traitement des déchets ménagers, Trifil prévoit de valoriser 80% des déchets ménagers de son territoire. Un projet soutenu financièrement, là encore, par la région Occitanie, à hauteur de 8 millions d'euros. Résumons le moment que nous venons de passer ensemble. En France, le transport est l'activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre. Face au réchauffement climatique, il est urgent de trouver des alternatives aux énergies fossiles. Sur cette question, la région Occitanie a choisi de préparer l'avenir en investissant massivement dans le train, dans les transports en commun et dans la recherche d'énergies alternatives comme l'hydrogène ou le biométhane. Tolt, tu mises toi aussi sur le train, mais également sur le vélo, la marche à pied, c'est ce qu'on découvre dans tes vidéos. Quel est ton prochain voyage et quel moyen de transport vas-tu utiliser ?
Eh bien écoute, je vais retourner à Vienne en train de nuit. J'ai réussi à convaincre des amis d'y aller comme ça. Voilà. Et puis après, il y a aussi un autre voyage que je voudrais faire prochainement, c'est aller en Tunisie sans avion. Donc forcément, il va falloir passer par la mer. Et donc là, je vais essayer de faire le maximum de trajets en train, donc en passant par l'Italie, en allant jusqu'à Palerme, en Sicile, et ensuite une petite portion en ferry.
Oui, c'est vrai que le train de nuit, ça donne un autre sens au voyage. Voilà, j'invite tous les auditeurs à essayer. On parle de Paris-Vienne, Paris-Berlin, ce sont malgré tout des distances assez courtes, un peu plus de 1000 km. Est-ce qu'on peut envisager le train, des modes de transport alternatifs, pour se lancer dans un tour du monde, par exemple?
Écoute, oui, tout est possible. Aujourd'hui, nous, dans notre communauté chez Ourai, on a des contributeurs bénévoles qui nous envoient des vidéos de leur voyage récemment jusqu'à Hong Kong. Il y en a d'autres qui prévoient d'aller même jusqu'en Nouvelle-Zélande. C'est juste qu'il faut effectivement avoir une approche un peu différente par rapport au voyage, c'est-à-dire que forcément, ça se fait pas en une semaine. Puis il faut aussi accepter que parfois, il va y avoir des petits changements de programme, etc. Et aussi que, en fait, c'est du voyage itinérant, c'est-à-dire que on n'est pas sur juste une translation, aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Le voyage fait partie du voyage. Donc,
voilà, le trajet fait partie du
voyage. Le trajet fait partie du voyage, voilà.
Je rappelle quand même que pour la Nouvelle-Zélande, il faudra aussi prendre un peu le bateau.
Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Mais effectivement, pour un vrai tour du monde, faire tous les continents, c'est sûr qu'il faudra à un moment ou à un autre prendre au moins un bateau à voile ou à moteur. Mais en tout cas, c'est possible. C'est juste voilà, essayer de changer notre approche par rapport au voyage. Et après aussi, il y a quelque chose à mon avis qui est assez essentiel. C'est un peu questionner nos besoins d'aller loin. Justement, le fait de le faire comme ça, ça permet de le rendre encore plus exceptionnel. Et donc, voilà, aujourd'hui, je veux dire, aller à New York, c'est devenu quelque chose de presque normal. Et je pense que si justement on revoyait un peu nos besoins, ça permettrait de rendre le truc plus exceptionnel.
Voilà. Et puis, ça nous fait redécouvrir une discipline qu'on a un peu oubliée. La géographie, parce que lorsqu'on voyage en train, eh bien, on voit ces paysages défiler, changer, évoluer au fil du trajet. Et ça aussi, ça fait partie du voyage. Merci, Tolt, d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir parlé de cette expérience à bord du train.
Merci pour l'invitation.
Ce podcast vous est proposé par la région Occitanie.